Shalom uvracha, on va continuer Be'ezrat Hashem notre développement concernant le mois de Hadar et ses qualités. Je vous rappelle que chaque temps a une force différente. Étant donné que nous sommes soumis à cette puissance, nous devons faire avec. Par exemple, la tfila, Shacharit, Mincha et Arvit, c'est soumis au temps. Mais il existe une tfila qui n'est pas soumise au temps. Par exemple, la Neshama. La Neshama, elle est dans une tefila continuelle. Parce que tefila, ça ne veut pas dire une prière, mais veut dire un contact, un lien. L'ilpot en hébreu, c'est être en lien. Donc la Neshama est en lien continuel, perpétuel, avec l'absolu. C'est sa vie. Donc elle n'a pas besoin de rentrer à la synagogue, la Neshama. Elle est tout le temps dans un lien de prière. Nous, de temps en temps, avec notre corps, on rentre à la synagogue et on a l'impression qu'on fait quelque chose de nouveau. En fait, qu'est-ce que tu fais? Tu rejoins ce que la Neshama fait continuellement, mais toi tu le fais trois fois par jour parce que tu es soumis au temps. Donc l'extériorité de notre vie est soumise au temps. Mais l'intériorité de notre vie n'est pas soumise au temps. La Neshama n'est pas soumise au temps. Ok? Ce qui fait que, en réalité, les choses qui ne sont pas soumises au temps ne peuvent pas disparaître. Alors que les choses qui sont soumises au temps peuvent vieillir et mourir. D'accord? Donc, pour guérir en réalité, quelqu'un, il faut essayer de changer le système, de régénérer ce qui vieillit et ce qui meurt. Et pour ça, il faut le relier à quoi? Aux parties qui, elles, ne vieillissent pas, ne meurent pas, donc à la lumière de l'infini. Les deux temples que vous avez vus dans votre vie, c'est et le temple du désert et le temple de Jérusalem. Il n'y a rien d'autre. Les temples du désert, ce qui était en réalité provisoire, entre guillemets, ils sont paradoxalement infinis. Donc jamais ils ont été détruits. Très bizarre. Ils se sont cachés. On n'a jamais entendu que le Mishkan a été détruit. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il était de l'ordre de la Neshama. Alors que le temple de Jérusalem, qui normalement est fixe, lui a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il est relatif au corps. Pour que le temple de Jérusalem ne se détruise plus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut coupler avec le temple de Jérusalem le Mishkan du désert. Donc je vais associer deux personnages, Moshe et Shelomo. D'ailleurs, c'est les mêmes lettres. Shelomo, c'est les Moshe. D'accord? Ken? Est-ce qu'il y a une feuille en plus? Oui. Tiens. Ok. Alors, on continue dans notre développement. Quel rapport avec tout notre mois de Hadar? Mais tout simplement, Hadar, nous avons dit que c'était le vêtement. Le vêtement. Aderet. D'accord? En hébreu. Et donc, ce sont des choses qui habillent le mouvement de l'infini. Avec des mots simples, le mois de Hadar, c'est un mois où les vêtements règnent. Et en régnant, qu'est-ce qu'ils font, ces vêtements? Ils dévoilent ce qu'il y a à l'intérieur de ces vêtements. Vous allez voir donc des vêtements bouger. Est-ce que ma chemise bouge?
Oui.
Non, c'est moi qui l'a fait bouger. Elle ne bouge pas. Une chemise ne peut pas bouger. Donc un vêtement ne peut pas bouger. C'est celui qui porte le vêtement, celui qui est à l'intérieur du vêtement qui fait bouger le vêtement. On est d'accord? Eh bien, c'est la même chose. Le mois de Hadar, notre travail, c'est quoi? C'est de déceler celui qui fait bouger tous les vêtements, c'est-à-dire tous les événements de ce monde. Donc la Géoula, dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est une Géoula qui ressemble étrangement à la Géoula de Pourim. Donc de mois de Hadar. Donc nous sommes dans une Géoula qui est complètement vêtue, complètement habillée. Elle est tellement habillée que certains ne la voient pas. Et donc on va te dire, ça c'est la Géoula, ça. Ça c'est de la politique, ça c'est du machin. Oui, mais tu n'as rien compris. Tous les mouvements géopolitiques, tous les mouvements politiques, tous les mouvements de ce monde, toutes les informations, tous les événements qui se passent, c'est quoi? Eh bien, c'est celui qui est à l'intérieur qui fait bouger tout ça. Si tu t'adresses seulement à l'information, ben, tu ne comprendras rien, comme tout à l'heure celui qui m'a dit que la chemise bougeait. Mais si tu comprends que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait avancer ses intérêts, à travers les vêtements politiques de ce monde, là, tu commences à m'intéresser. D'accord? Ça, c'est Hadar. Ken?
J'ai deux questions. Juste, il habille quoi? Les mouvements?
Il habille les mouvements de l'infini.
Ah, ok. Et pourquoi Hachem,
il devait être sur Orim? Il n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Ça veut dire qu'en réalité, il s'habille dans les événements de ce monde. Ça veut dire toi, tu prépares les événements de ce monde. Donc, parfois, ça peut te paraître, effectivement, comme tu dis, terrible. Mais, si tu sais lire l'intériorité de la chose, tu commences à comprendre différemment les choses.
Moi, si je ne sais pas lire l'intériorité de la chose...
Il faut que tu apprennes. C'est ça le Inyan. Donc, nous dit le Zohar, ta propre question, le Zohar HaKadosh nous dit qu'à la fin des temps, le vêtement sera vilain, et l'intériorité sera dans le Kodesh. Et donc ceux qui ne pourront pas lire l'intérieur vont tomber dans la dépression en regardant l'extérieur. C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai à Alava Shalom. Or, nous sommes aujourd'hui dans l'époque de laquelle il parlait. Autrement dit, aujourd'hui, pour survivre au messianisme que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il faut absolument apprendre à lire ou à lire entre les lettres, à entrevoir Akadosh Baruch Hu dans le vêtement.
C'est super dur.
C'est très dur. Et alors, qui a dit que ce qui est dur n'est pas vrai? C'est super dur, donc c'est super vrai. C'est tout. Il faut juste bosser pour y arriver. C'est-à-dire que si tu restes au niveau superficiel, tu ne comprendras rien. C'est comme quand tu vas acheter une voiture. Est-ce que tu regardes la carrosserie ou est-ce que tu t'intéresse aussi à la consommation, au moteur? C'est la même chose, c'est exactement pareil. C'est la même chose. Mi Bessari et Cheze Eloha. Tout ce que tu as dans ce monde, il y a une correspondance, il y a un monde parallèle qui marche avec les mêmes fonctionnements. Donc, si ta carrosserie est vilaine, Ken, on a voulu me faire un cadeau, juste pour me faire une surprise, on m'a apporté une carrosserie horrible. Ce que je ne sais pas, c'est que dedans, tout l'intérieur, c'est une Bentley. Neuve. Et moi, avec quoi j'ai jugé de ne pas la prendre? Parce que j'ai vu l'extériorité qui n'est pas belle. J'ai rien compris. On te demande de faire un travail de toutes les parois des quatre vêtements, parce qu'il y en a quatre en grand, et quand tu as touché l'intériorité, tu peux concevoir que dehors, ça paraît être pas sympathique, mais dedans, c'est la plus grande des lumières. Un bébé. Un bébé qui va rentrer ses doigts avec un tournevis, avec un clou, il va rentrer dans la prise. Son papa vient, lui donne une claque, il lui dit « Attention, faut pas faire ça !» Pour le bébé, le papa est méchant, menaçant. C'est pas un bon papa, je t'aime pas. Pourtant, le papa vient de lui sauver la vie. Mais c'est exactement pareil. Si tu te dévoiles comme un bébé qui ne comprend pas, parce que tu ne vois pas la totalité des choses, tu peux considérer que les choses sont mauvaises. C'est tout. C'est vrai ? Eh ben, c'est toi, tu dois faire un travail pour devenir ce grand rabbanim. C'est tout. Ken.
Je vais être très concret là sur ce point.
D'abord,
s'oblige pas à relâcher de manière systématique des gens qui ont commis des crimes. 6 mois après, on les relâche, ils vont chez eux, ils peuvent rentrer, venir. 2 ans après, ils sont libres, puis venir faire des assassinats, c'est ça. Je veux dire, nous, on peut. Est-ce qu'on n'a pas la capacité d'empêcher que certaines choses se produisent, de sorte qu'après, on dise, oui, même malgré le mal, il y a le bien qui va sortir.
Tout à fait. Tout à fait, on n'a pas dit que j'étais sorti de l'image. Moi, dans mon monde, quel est mon devoir ? De suivre ce que la Torah me dit, donc les préceptes de Dieu. Et qu'est-ce que la Torah me dit quand j'attrape un assassin ? De le tuer.
Ah ouais ?
Donc, mais voilà. Parce que on est rentré dans un système. On est rentré dans un système qui est un système politique d'aujourd'hui, où on ne respecte pas les valeurs d'Akadosh Baruch Hu dans l'absolu. Et donc, après, on s'étonne de voir des résultats qui sont néfastes.
À moindre mesure qu'on prend, il faut que les alliés américains disent non.
C'est ça,
non,
ça tout à fait.
Ils ont des liens avec l'Arabie Saoudite. Pour les pétroliers.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système de réaction dans ce monde, elle est encore au niveau de la réflexion humaine seulement. On n'a pas pris en compte les critères d'Akadosh Baruch Hu. Quand je prends les critères d'Akadosh Baruch Hu et je fais le maximum de ce que je peux, après je ne peux plus rien faire autre chose. Ça, c'est lui qui décide. Mais moi, je dois faire le maximum de ce que je peux. Et où est-ce que je sais où est le maximum? Selon la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire, dans la Torah et les mitzvot, on a ce qu'il faut faire. Par exemple, je n'ai pas le droit de contracter un accord de paix avec les gens qui vivent autour de nous. C'est une halakha dans la Torah. Lo tichrot lahem brit. Tu n'auras jamais un accord de paix avec eux. C'est une halakha. Des Palestiniens, par exemple.
Mais il y a avec les Cisjordaniens.
Encore une fois, si ce sont des gens qui veulent ma mort, je n'ai pas le droit de contracter un accord avec eux. Pen yu lecha le mokesh, parce qu'ils vont devenir une mine pour toi. C'est une halakha de la Torah. Quand tu ne respectes pas ça, et que tu veux absolument, tu t'es trouvé un nouveau Dieu, ça s'appelle la paix. En réalité, c'est pas que tu veux la paix, tu veux juste la paix. Tu veux qu'on te foute la paix, mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est encore une fois ton intellect qui t'a guidé à ces conclusions-là, alors que la Torah, elle te dit autre chose, mais toi, tu ne fais pas confiance. Tu as l'impression que toi, tu peux choisir où est le bien et où est le mal. Et qui nous a donné cette puissance-là? Le serpent. Le serpent, quand on a fauté, Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur a dit le serpent? Vi'item ke Elohim. Yod'e tov vera. Quand tu mangeras de ce fruit, tu seras comme Elohim, en sachant où est le bien, où est le mal. Ça veut dire que le serpent, il a dit à Adam et Chava, vous allez être les nouveaux dieux. C'est tout. Et à partir du moment où on ne respecte pas ces lois, et il faut donc les étudier, il faut les approfondir, eh bien, ne t'étonne pas, Chas v'Shalom, de résultats qui sont en présence de nos yeux, malheureusement, et qui nous font tous mal et souffrir, parce qu'on ne fait pas ce que les critères d'Akadosh Baruch Hu nous indiquent de faire. Parce qu'on est toujours plus intelligent que tout le monde. Donc il faut faire très très attention. Une fois que tu as fait tout ce que tu peux, selon la Torah, sache que il y a un dirigeant malgré tout qui fait tout le reste. C'est là ? Ken ?
Je ne suis pas très d'accord. Pour devenir ce grand rabbinim qui...
C'est ton problème, ne deviens pas.
Mais le temps, par exemple, si on fait le bébé, on nous arrive quelque chose, et au lieu de voir vraiment ce qu'est la chose, on se plaint. Mais le temps de devenir, entre guillemets, ce grand rabbin, pour vraiment comprendre. Le temps de faire ça, la chose, ça va déjà partir, donc c'est ça.
C'est comme ça que tu apprends.
Mais il faut un truc concret dans la situation précise.
Mais c'est comme ça que tu apprends. Le bébé, dans la situation précise, il a reçu une claque. Tu veux que le bébé, maintenant, devienne un ingénieur qui a fait maths sup. Tu vas grandir, c'est tout. Il y a un processus. Tu veux dépasser le temps, tu veux changer le système, tu es sorti de notre cours. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous sommes soumis au temps. Étant donné que nous sommes soumis au temps, la Géoula que nous sommes en train de subir et de vivre, elle va s'habiller dans le temps. C'est tout. Donc l'un des vêtements dont je vous parle à Deret, c'est aussi le temps. Le temps est un vêtement. L'espace est un vêtement. Les événements, sont des vêtements. Les paroles sont les vêtements de ma pensée. Tout ça, ce sont des vêtements.
Ça se met que quand on est sur Terre. À partir du moment où quand on voyage sur la Lune, le temps n'est plus... Ce qui nous est à nous imparti comme le temps n'est pas du tout la même chose.
Peu importe, c'est encore du temps. C'est encore du temps. C'est un temps plus court, plus long, peu importe. C'est encore du temps. Tant que tu n'es pas au niveau de l'infini, béni soit-il, tu es soumis au temps. Donc toute la création, elle est soumise au temps. Même si le temps dans l'espace n'est pas exactement comme sur Terre, je suis d'accord avec toi, mais on s'en fiche, c'est encore du temps. C'est-à-dire ? Alors, Am Israël, Shiyatsa Me'ulo Shel Paro. Donc le peuple d'Israël qui est sorti de la... du joug de Paro, du pharaon, c'est en réalité le début de toutes les corrections, de toutes les guérisons. Autrement dit, tant que nous sommes enfermés chez un pharaon, oubliez maintenant l'Égypte, je parle de chacun de vous. Si vous êtes encore enfermé dans un système de pensée qui s'appelle pharaon, c'est-à-dire qui vous dérange, en hébreu, paro, c'est afra, dérangement, tant que vous êtes soumis à ce roi-là, c'est quoi chez vous ? La logique humaine que vous avez développée, donc vous êtes encore son prisonnier, eh bien vous ne pouvez pas du tout entendre, parce que vous n'êtes pas disponible, d'entendre la parole de l'absolu. Dans l'histoire, comment ça s'est passé ? Seulement ceux qui sont sortis d'Égypte ont reçu la Torah. C'est tout. Alors ça vous paraît facile, bien sûr, ils sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah, pas du tout. La leçon profonde, c'est que tu ne reçois la Torah que si tu sors d'Égypte. Est-ce que vous avez compris ça ? Si tu n'es plus prisonnier de tes dérangements intérieurs, tu peux commencer à entendre la vraie voix de la vie. V-O-I-E et V-O-I-X, comme vous avavez envie. Az hechela leitmamesh. Hamashmaut ha'amitit agnuza barayon she'amad beyesod abria. Donc la sortie d'Égypte, elle a servi à quoi ? À commencer à manifester le but même de la création du monde. Qui était quoi le but de la création du monde ? Kakadosh Baruch Hu, avec toutes ses valeurs, descend dans la création. Donc, Akadosh Baruch Hu, avec toutes ses valeurs, ne pouvait pas, entre guillemets, se dévoiler dans la création parce qu'il n'y avait pas de porte-parole. Parce que tout le monde était prisonnier de quoi ? De la pensée humaine, sclérosée et subjective. À partir du moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte, il y a une preuve que quoi ? Que l'humanité peut se libérer. Et elle va, elle, ce groupe humain, en l'occurrence le peuple d'Israël, va commencer à entendre les voix de l'infini. Donc la guérison de ce monde. On va commencer à guérir le monde à partir de la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, c'est quoi ? Chez nos sages, ça équivaut à quoi ?
Sortie de nos limites ?
Oui.
La galoute, le dépassement de...
Non, la sortie d'Égypte. C'est la sortie de quoi ? C'est pas seulement la sortie, c'est une nouvelle création du monde. C'est-à-dire, il y a eu la création du monde au niveau de la matière, et maintenant, création du monde numéro 2. C'est-à-dire que toute la création du monde de la matière ne valait rien tant que Israël n'était pas sorti d'Égypte. Donc maintenant, nous sommes face à une deuxième création du monde. Donc les sages dans la Gemara vont comparer quoi ? La création du monde à la sortie d'Égypte. Comment est-ce qu'ils vont le faire ? De quel Gemara je parle ? Où est-ce que vous avez vu une comparaison entre la création du monde et la sortie d'Égypte ? Dans le traité de Rosh Hashanah. Quelqu'un peut m'expliquer comment ? Il y a deux sages qui discutent quand est-ce que le monde a été créé. C'est tout. Un des sages nous dit que le monde a été créé à Tishré, et l'autre nous dit qu'il a créé à Nissan. Donc, moralité, vous avez compris. Celui qui dit que le monde a été créé à Tishré, de quoi il s'occupe ? De la matière. Et l'autre qui dit, Rabbi Yoshua, en l'occurrence, que le monde a été créé à Nissan, ça veut dire que pour lui, le monde réellement a commencé à être un vrai monde quand l'Israël a été libéré, quand l'homme a été libéré, donc l'Israël qui est sorti d'Égypte, c'est en Nissan. Est-ce que vous avez compris ? Yotze Efo. Donc maintenant, d'après tout ce qu'on vient de dire, qui Chodesh Adar, ça nous fait en réalité comprendre que le mois de Adar, Hu Achron HaChodashim, c'est le dernier des mois. Ve'achana la Chodesh Arishon Nissan. Donc c'est une préparation, il va jouer le rôle de préparateur à quoi ? À cette fameuse délivrance du premier mois de l'année Nissan. Moralité, si je vis Adar à son véritable niveau, je suis censé quoi le mois prochain ? Me libérer. Vous avez compris ? Donc votre Seder de Pessah, maintenant je vais parler concrètement, dépend de quoi ? Du mois de Adar qui a précédé. Extraordinaire. C'est encore mieux. Parce que le mal est balayé par 60 degrés en face de lui. Ça s'appelle Batel Beshishim. Étant donné qu'il y a 60 jours dans Adar et Adar, donc c'est Batel Beshishim. J'ai annulé le mal face à 60 forces de lumière. Ok ? C'est dans la Chassidut. Ok ? Donc moralité, nous sommes dans un mois. Cette année, dans deux mois, qui nous prépare à quoi ? À une véritable délivrance. Pas au Seder de Pessah. Tout à l'heure, c'était juste pour vous donner la date. Est-ce que vous en comprenez ? Et si je veux être plus précis encore, quand est-ce que je vais être dans la plus grande des préparations de cette libération ? Exactement. Et pour Purim, c'est à combien de jours de Pessah ? 30. Pile ! C'est-à-dire, le 15 du mois de Hadar, c'est Purim. Le 15 du mois de Nissan, c'est Pessah. Donc, j'ai 30 jours. Et si pendant le Seder de Purim, c'est-à-dire je suis assis, je bois, je dis des paroles de Torah, je mange, je fais le Mishté de Purim, qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant, de préparer quoi ? Ma propre libération. Donc, selon mon Seder de Purim, j'aurai un Seder de Pessah. Incroyable. Mais même Purim, il a eu une préparation. Car 30 jours, jour pour jour avant, il y avait Tu Bishvat. C'est le 15 du mois de Shvat. Donc, le 15 du mois de Shvat a préparé le 15 du mois de Hadar. Et le 15 du mois de Hadar prépare le 15 du mois de Nissan. Donc nous avons 3 fois 15. 3 fois 15, 45, valeur numérique, Geoula, rédemption. Ben oui. 45, c'est Geoula, en valeur numérique. Ça veut dire que si je sais comprendre, décoder la puissance qu'il y a à tout Bishvat, à tout Hadar et à tout Nissan, j'ai tout, j'ai tout compris. J'ai tout compris. D'accord ? C'est ça la Géoula. Donc tu redeviens un homme. Quelle est la valeur numérique de l'homme ? Géoula, pareil. L'homme et Géoula, c'est pareil, c'est la même valeur numérique. Adam égale Géoula. Vous saviez ? Ça veut dire qu'en réalité, c'est notre essence. Notre essence, c'est d'être libre. Et chaque fois que tu es contraint à quelque chose, c'est que tu n'as pas encore compris ta liberté dans ce monde. Donc tu ne peux pas opérer, tu ne peux rien faire. Donc soyez libre, devenez libre. Et arrêtez d'être, ne serait-ce que prisonnier de quoi ? De votre pensée. Soyez capable de sortir. D'ailleurs, dans la Torah, pour étudier, il faut sortir. C'est Ulmad. Les Chachamim ne te disent pas « va étudier », ils te disent « sors et étudie ». Ça veut dire « sors ». Sors de quoi ? De ton système de pensée que tu t'es habitué à penser jusqu'à maintenant, sinon tu ne peux pas étudier. Tu vas répéter, comme un perroquet, ton propre système de réflexion. Tu n'es pas capable de sortir de toi-même pour découvrir autre chose. C'est énorme, énorme, Rabotai. Ken ?
Ça peut amener à la folie ?
Ça peut amener à la folie. Pourquoi ?
De sortir de ce système de pensée qui a été cadré, c'est un peu un déséquilibre.
Cadré par qui ? Donc c'est la plus grande des folies. C'est ça la folie. Si tu vis selon ton système à toi, tu es en dehors du système de la vérité. On est d'accord? Alors, je suis d'accord que ça te rassure, mais j'en ai rien à faire. Tu peux être rassuré en restant toute ta vie dans ta chambre, on est d'accord, en pyjama. Mais tu n'as pas vécu. Excuse-moi, tu es un prisonnier. En plus, si ton pyjama, il a rayure. Chas v'shalom, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que tu es tranquille, tu as l'impression que tu es tranquille, que tu es dans le vrai. Alors c'est vrai que sortir, ça soumet l'homme à des dangers. Prendre la voiture, c'est dangereux. Mais ça me permet aussi d'aller donner un cours à Rahanana. Et que tu veux que je fasse? Et prendre l'avion, c'est pareil, c'est pire. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Alors sinon, tu ne sors pas. C'est pour ça qu'il y a tfilat haderech, pas tfilat abayit. Dans la maison, tu n'as pas besoin de tfilat. C'est quand tu sors de la maison que tu commences à être en danger. Et alors? Alors tu fais rien?
Ah non, mais si c'est... Lorsque je prends la voiture, ça mène peut-être à la mort, mais ce n'est pas la folie.
Mais la folie, c'est une forme de mort. C'est pareil.
Ouais, c'est une forme de mort.
Et alors? Mais tu n'es pas obligé d'arriver à ça. Tu peux arriver, mais tu n'es pas obligé. Il y a un risque de... Tu as raison. Donc tu dois t'équilibrer. Tu dois étudier convenablement. Tu dois rester avec les pieds sur terre. Tu dois savoir où étudier la Torah. On est d'accord? Exactement. Exactement, c'est ça l'homme. Les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est exactement, tu viens de comprendre, peut-être pour la première fois dans ta vie, la définition de l'homme. Baruch Hashem. Soulam mutsav arza verosho magia hashamaima. C'est ça l'échelle de Yaakov. Je crois que Yaakov, il a rêvé d'une échelle. Il a rêvé de l'homme idéal qui a les pieds qui vont vers la terre et la tête qui va vers le ciel. C'est ça l'échelle de Jacob. Je crois que c'est une échelle. C'est une échelle de valeur. Tov. Ça va, tu es avec nous? Oui. Tu es d'accord? Ok. Klomar. Sheim Chodesh Nissan Mesamel et Yesod Trilat Acherut HaOlamit. Donc si le mois de Nissan représente le fondement du début de la liberté mondiale, d'une manière générale, Hare She Chodesh Adar Metsayen et Shlav Siouma Shel Avdut. Donc le mois d'avant, c'est quoi? C'est la fin de l'esclavage, de l'exil. Donc le mois de Adar, je dois terminer en lui quoi? Toute forme d'exil, d'esclavage. Parce que je vais arriver à Rosh Chodesh Nissan bientôt, et je dois être déjà à Rosh Chodesh un homme libre. Et si je suis un homme libre le premier du mois de Nissan, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu me rentre dedans. Ça s'appelle la Shekhina. Quel jour a été inauguré le temple du désert? Premier Nissan. Le premier jour de Nissan. Tu comprends maintenant comment je pose les questions, hein? C'est pas par hasard. Ça veut dire que quand est-ce que Moshe, Aaron, les enfants, devaient se préparer en réalité à l'inauguration de ce temple? Les sept derniers jours de Hadar. On est d'accord tous? Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces sept jours? Ils construisaient quoi? Il a fait. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en plus? Ils le défaisaient. Ils construisaient et ils défaisaient le Mishkan trois fois par jour. Ça, vous ne saviez pas. Moshe Rabbeinu, les sept derniers jours, donc avant l'inauguration du temple, premier du mois de Nissan, les sept jours du mois d'avant, il montait le Mishkan, il les défaisait trois fois par jour. Alors imaginez-vous ce que c'est le Mishkan.
Que Moshe.
Ce qu'on appelle en français l'ajeb. Impossible à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors on va dépasser le premier niveau de réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu es capable de quoi faire dans ta vie? De construire et de défaire trois fois par jour ton propre système, tu vas recevoir la force divine à la fin. Et si tu es faible et tu te dis, bon, moi, à mon âge, à mon niveau, j'ai compris certaines choses, ça me suffit. Tu n'es pas capable de t'auto-démonter pour te remonter trois fois par jour, tu n'arriveras à rien dans ta vie, tu seras un petit. Tu resteras un petit. Parvé ou pas vrai.
Comment se démonter?
Okay. Se démonter, ça veut dire que tu as construit un système et tu le remets tout en question. Tu es capable de faire ça? Ou bien tu rentres en cours avec déjà un cours dans la tête et tout ce que va te dire le Rav, tu vas dire « Ah non, moi j'ai appris que, moi j'ai appris que ». Ça veut dire que tu t'es jamais démonté, tu t'es jamais posé la question. Tu viens déjà coincé dans un système. Tu peux pas étudier comme ça. Ken okay. Du Mishkan.
Par Aaron et ses fils.
Nahon.
Mais pourquoi c'est Moshe qui le faisait avant?
Parce que c'est lui la Neshama de tout le peuple d'Israël. C'est pas Aaron. Aaron, c'est un vecteur.
Moi, je croyais qu'il regardait Moshe et il le faisait là.
Non, non. C'est Moshe lui-même. Moshe lui-même. Ok.
Ceux qui font ce que vous avez dit là, tous les, comme ça, qui le répètent tous les années, pourquoi? C'est pour se perfectionner ou c'est...
Qui répète quoi? J'ai pas compris.
Là, toutes les choses de Hadar, pour
ah. Ah, je sais pas moi qui c'est qui fait ça. Ça, c'est mon cours à moi. C'est moi qui l'ai écrit.
Non, mais il y a des gens qui font ce que
vous... Je suppose. Moi, j'essaye de faire ça, oui. C'est pour ça que je l'ai écrit.
Et vous faites ça pour vous ou pour tout l'Am Israël?
Pour le Am Israël. Qu'est-ce que j'en ai à faire de moi-même? Moi, je suis un vecteur pour le peuple. Je suis un travailleur pour Dieu. Moi, je travaille dans la plus grande usine du monde avec le plus grand boss du monde. Il s'appelle Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Donc, je dois être magnifique pour s'en servir. D'ailleurs, je suis un représentant. Donc, il faut que je sois nickel, il faut que je sois bien, que les gens ne se moquent pas de moi, que je n'ai pas de taches dans mes vêtements, que je sois correct, que je parle correctement. Je travaille pour lui. Si je suis pourri, j'arrive chez quelqu'un pourri, on va me dire quoi? Mais dis-moi, ton patron, il est comme toi. Dégage. Comprenez ça? Donc, je fais le maximum avec ce que j'ai. Ben vadaï. Moi je fais que ça, pour ça. Je pense à rien d'autre. J'ai aucune idée dans ma tête que la Géoula du peuple d'Israël et de ma nation, de mon peuple, et que tout le monde soit bien. C'est avec ça que je me lève et c'est avec ça que je vais dormir. C'est tout ce qui me dirige dans ma vie. Même quand je suis dans mon atelier en train de faire un truc qui apparemment n'a aucun lien avec le Kodesh, je ne pense qu'à ça. C'est tout. Je vis, je respire, je mange, je dors. Géoula. Dévoilement d'Hachem avec ses valeurs dans ce monde. Voilà votre serviteur avec toute humilité. Hein. Quel?
Il est capable de démonter son système de pensée trop par
jour. D'accord.
Et des fois, c'est pas bien de faire avoir quelqu'un qui étudie la Torah et qui est religieux. S'il est capable de démonter son système de pensée,
ben oui. Ben vadaï. S'il a peur de ça, c'est qu'il n'a pas vraiment compris le Inyan. Et alors? Si tu as peur de prendre des risques dans un domaine, c'est que tu n'as pas une conviction réelle de la chose. Moi, je suis capable d'écouter maintenant un type qui est anti-religieux, qui vient de me dire ces valeurs, je veux les écouter. Peut-être que j'ai quelque chose à apprendre de là-bas. Et alors? Si je suis sûr de moi-même, si je suis en train de travailler, je peux me permettre d'ouvrir à quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Je suis à l'écoute, je veux savoir. Je peux démonter pour le remonter. C'est pas démonter Stam. J'ai dit tout à l'heure, il démonte et il remonte. Mais à chaque fois qu'il remonte, il y a une perfection supplémentaire. Au contraire, je suis encore plus fort. Quel?
C'est un peu bizarre que je veux dire, mais imaginons qu'un jour, je parlais avec cette personne qui était au courant de son truc.
Quel?
Et qui a quelque part vous convaincre.
Quel?
Enfin, quelque part,
Oui, je suis dans la vérité absolue, j'essaye d'être dans la vérité absolue. Mais comme la vérité absolue, ce n'est pas mon système, mais le système de la Torah, si ça sort des voies de la Torah, mon système, immédiatement, j'ai un gardien qui me dit, attention, ce n'est pas ce que la Torah dit. Donc, tu es en train de te tromper.
Oui.
Tu comprends? Mais moi, je vais te raconter l'autre histoire. C'est que si un jour, j'arrive à le convaincre, moi, pourquoi tu me racontes une histoire où c'est lui qui me convainc? Mais ouais, mais moi, dans mon exemple, dans mon histoire, c'est moi qui le convainc. J'ai une autre histoire.
Il
n'y a pas de souci. Je me remets en question dans certains degrés de ce qu'il vient de me dire. Et je me dis que peut-être dans ce degré-là, il a raison. Mais le cheminement final, la dernière ligne, si ça sort du Shulchan Aruch, c'est qu'il a tort. C'est-à-dire, j'ai quand même Une limite, c'est que je vois comment je dois vivre selon les critères d'Akadosh Baruch Hu. Alors lui, qu'est-ce qui m'a aidé à faire? Peut-être à être un petit peu plus mesuré dans mes paroles. Ça aussi, c'est une bonne chose que j'ai appris chez lui.
C'est aussi pareil sur un discours avec quelqu'un qui est contre faire l'armée sur un échiot.
Bevadaï. La même chose, j'essaye de comprendre ce qu'il veut, pourquoi, comment. S'il arrive à me convaincre qu'il fait son étude pour l'ensemble de la nation d'Israël, moi je suis prêt à le payer aussi, pour qu'il reste étudié.
Mais pour vous voulez faire l'armée,
et alors? Et alors?
Et si vous arrivez à l'armée au final?
C'est ça. Alors une personne, elle ne va pas faire, mais il ne va pas me convaincre que l'armée est inutile. C'est pas pareil. Il y a certaines personnes, moi, Yoel, je vais les voir et je leur dis, toi, il faut que tu restes étudié. Mais c'est pas à tout le monde. Parce qu'il faut aller un petit peu dans les yeshivot. La cuisine, elle est aussi remplie toute la journée que les sièges d'études. À se faire des petits thés, des machins, des trucs. Excuse-moi, si tu vas à la yeshiva pour te faire des petits cafés, des petits thés, des petits gâteaux toute la journée... Bien, dégage. Ken.
Au niveau de certains niveaux de maturité de l'Emouna.
Ken.
Je ne dis pas forcément moi, mais le fait que, Adar, on prépare pour la délivrance.
Nakhon.
Et on vit que ça. Donc, on peut être convaincu que la délivrance est arrivée. Et en fait,
tout à fait.
Si chaque année, il y aura toujours Adar, et après, est-ce que. Si on est déjà délivré, alors on revient encore?
Non, parce que tu as oublié une seule chose. C'est que le temps d'Israël est en forme de spirale. Ça veut dire que ça revient jamais au même endroit. C'est toujours au même endroit, mais un degré plus haut. Donc chaque année, tu sors un petit peu plus de tes embêtements, de ton Égypte, de ta paralysie. Vous comprenez comment ça marche? Il n'y a pas de fin. Puisque nous avons affaire à l'infini. Donc même notre délivrance va être infinie. Chaque année, nous allons nous délivrer un petit peu plus, et un petit peu plus, et un petit peu plus. Jusqu'à quand? Il n'y a pas jusqu'à quand, c'est une fausse question. Tout le temps. On va vers l'infini, en mathématiques. On tend vers l'infini. Vous avez appris ça en maths. Qu'est-ce que ça veut dire tendre vers l'infini? Tu sais que tu n'arriveras jamais, mais c'est pas grave, tu avances. C'est magnifique, non? L'année dernière, je suis sorti d'Égypte. Et j'ai eu la Géoula. Selon l'année dernière. Cette année, j'ai encore un petit truc à sortir. Je vais encore essayer de sortir. J'ai gagné encore une couche. Troisième couche, quatrième couche, Ripollin. Ken? Ken? Parce que tu considères que l'armée, c'est moins que la yeshiva. Alors, j'ai des nouvelles pour toi. Si tu es militaire l'année prochaine, tu risques, à mon avis, de sortir plus d'Égypte l'année prochaine que cette année. Bien sûr, parce que tu sers ta nation tout entière d'une manière active. Tu es prêt à donner ta vie pour ta nation. Pas maintenant, ici. Là, tu n'es pas prêt de donner ta vie pour moi. L'année prochaine, quand tu vas être à l'armée, et que chaque instant, tu risques de mourir pour ton peuple, je vais te dire que tu es loin du niveau que tu es ici. On est des bidons ici. Si maintenant un militaire rentre avec sa tenue, je me lève. Parce que c'est un tzaddik. Parce qu'il est prêt à donner à mourir pour sa nation, pour son peuple. Qui peut arriver à ce niveau-là? Personne. Alors, jamais ne fais ce genre de comparaison. Fais attention.
Après l'armée, alors.
Ah, ça y est, tu vas rajouter encore chaque couche, tu vas me raconter tout le... Alors, après, l'année de... Dans trois ans et demi, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi maintenant la nouvelle histoire, la nouvelle version.
Est-ce que c'est possible, en fait, au lieu de faire comme ça, de descendre?
Oui, c'est possible. C'est possible si toi, au niveau individuel, tu as décidé de quitter, en fait, le cheminement du clan Israël, tu commences à t'occuper que de ta figure, pour ne pas dire autre chose. Oui. Ce qui t'intéresse, c'est que ton petit ventre à toi, tu deviens le nombril du monde, bien sûr, tu peux dégringoler. Bien sûr. C'est le choix de là.
On parlait de moi, c'est aussi moi et ma famille.
Ça dépend, je ne connais pas. Attends, non, bah, écoute-moi, téléphone-moi chaque fois qu'il se passe quelque chose, comme ça je te dis où tu en es, qu'est-ce que je te dis. Ça dépend, je ne sais pas qui est sa femme, peut-être que sa femme elle va lui dire, écoute mon cher mari, tu es complètement paumé, c'est pas la Torah, d'où je sais moi. Ça dépend de plein, tellement de choses, comment tu peux me donner un cas qui n'existe pas. La mitzvah la plus importante, c'est pas ça, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est tout. Non, pas du tout, pas du tout. Je peux étudier la Torah, c'est quoi pour toi? C'est ouvrir un livre? Pas du tout. Alors appliquer, c'est pareil, tu peux l'appliquer avec un vêtement de l'armée. J'applique la Torah, je vis la Torah. Encore mieux, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais qu'est-ce que ça veut dire Talmud? Tu sais ce que ça veut dire Talmud? Il n'y a pas marqué Limoud déjà. Il y a une différence entre Limoud Torah et Talmud Torah. Nakhon? Tu n'as jamais fait attention à cette différence. Alors je vais te dire pourquoi. Parce que tu ne connais pas la sémantique hébraïque. Limoud Torah, c'est l'étude de la Torah. Talmud Torah, c'est toi qui vas enseigner. C'est Limoud ou l'Elamed. C'est autre chose. Mais je peux enseigner à quelqu'un en devenant moi-même un exemple vivant.
Alors prendre la yeshiva, c'est beaucoup d'études de l'armée directement pour prendre la yeshiva.
Pas du tout, parce qu'il faut développer tout ce que tu vas faire à l'armée. Si tu rentres à l'armée maintenant sans cette conviction, sans cet apport, pourquoi aujourd'hui, Baruch HaShem, tous les combattants de l'armée, ils ont des kippots sur la tête?
Tous les combattants de l'armée?
Pratiquement. Ça devient une folie en Israël. Ils ont peur d'ailleurs. Parce que c'est des gens qui ont une conviction beaucoup plus forte. Tu as pris conscience de certaines choses au Machon Meir. Quand tu vas arriver là-bas et que tu vas être un combattant, tu n'as même pas besoin d'enseigner, d'ouvrir ta bouche. Tu vas passer avec ton arme à la Tachana Merkazit. C'est déjà une leçon de vie. Pour tous ceux qui se sentent morveux parce qu'ils ne sont pas là-dedans. Okay,
pourquoi,
c'est tout.
Pourquoi il y a tellement de rabbins qui sont rabbins? Après, je ne pas tout à l'armée. C'est le plus important. Après, il n'y a pas tout le monde qui est à l'armée.
Parce qu'il y a un roulement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à 60 ans? Il y a un roulement. Alors on aide. Et moi, je t'aide à devenir plus fort quand tu vas être là-bas dedans. Donc je fais mon travail.
Donc c'est aussi important.
Bevadaï. 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 Il n'y a pas de mesure important ou moins important. Là où tu es le meilleur, deviens le meilleur. C'est tout. Là, tu es maintenant dans la force de l'âge, dans la force de l'homme. Contre moi, tu me bats, je suis fatigué. Entre guillemets, d'accord? Enfin, c'est... Merci, c'est gentil. Mais bon, c'était juste comme ça, mais qui vient, tu vas voir. Bon. Ken, donc, en réalité, là où tu es bon, fais-le. Pourquoi la Torah nous dit « Ben Shloshim Lekoach » À 30 ans, tu es dans la force. À 20 ans, tu es dans le truc. Ah, tu comprends? C'est ça, ça veut dire qu'à chaque étape de ta vie, tu es fort dans quelque chose. Donc utilise cette force. Comme nous sommes en train d'utiliser le mois de Hadar. Parce que dans le mois de Hadar, il y a quelque chose de spécial. C'est pareil dans ta vie. Vous êtes avec moi? Ok. Donc, Metzayen et Shlav Siyuma Shela Avduta Enoshit Baolam, Veu Efor Siya Choshech Hakodem Leor HaGeoula. Donc maintenant, il y a un problème maintenant. Il y a un problème. Puisque Nissan, c'est le début de la... présence divine sur terre. Le Mishkan. Sois avec moi. Puisque Nissan, le premier jour de Nissan, il y a la lumière divine sur terre. Avant que cette lumière divine soit sur terre, le mois d'avant, il n'y a pas encore de lumière divine sur terre. En tout cas, elle n'est pas visible. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui va dominer pendant le mois de Hadar? L'obscurité. Donc, l'obscurité... C'est le mois de Hadar. Donc, qu'est-ce que nous disent les Chachamim pour ne pas tomber dans la déprime de l'obscurité? Augmente le volume de la Simcha. Mishenichnas Hadar, Marbin Besimcha. Pas comme vous avez cru jusqu'à aujourd'hui, que dès que le mois de Hadar, il rentre, tu vois un clown en face de la tête. Non. C'est que dès que le mois de Hadar rentre, étant donné que tu es à la fin de l'année, donc tu es dans le summum du noir, avant le mois prochain de la délivrance, c'est là où tu dois augmenter le volume de ta simcha, sinon tu vas mourir, chas v'shalom. Autrement dit, je vais vous le dire avec d'autres mots, si tu restes avec le même volume de simcha que tu avais jusqu'à maintenant, tu ne tiendras pas le mois de Hadar. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Donc vous devez, pendant ce mois, augmenter le volume de votre simcha. Par exemple, en plein milieu du cours, moi, pas toi, j'ai le droit de sortir une blague. Okay? Juste pour te détendre un petit peu l'atmosphère. Pourquoi? C'est-à-dire, ça s'appelle Milta Debdihuta, il faut que je vous fasse rire, il faut que je rentre un petit peu plus d'humour, il faut que je fasse certaines choses, et même aller manger, inviter des amis, faire une soirée avec de la musique, même des choses qui te paraissent superficielles, fais-le. C'est pas superficiel. C'est important que tu sois joyeux et heureux ce mois-ci. Sinon, tu vas sombrer dans la déprime. Chas v'chalila. Ken. Donc fais les choses qui, tu sais à toi, qu'elles te font respirer, revenir à la vie, à la vitalité. Il y a un homme qui était très, 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 très vital, qui s'appelait Rabbi Chaim. Donc essaye de devenir un petit peu comme lui. Rabbi Chaim, il était vital. D'accord? Par contre, le hari n'était pas zal. C'est-à-dire, quand les gens ils voyaient le hari dans la rue, il ne dit pas j'ai vu le hari zal. Ça veut dire qu'il est mort. J'ai vu le hari. Ou alors j'ai vu harié. Si c'est mon copain, si c'est mon voisin. Le hari, il était bien voisin de quelqu'un. Donc quand il faisait son nettoyage à la maison le vendredi soir et qu'il enlevait les toiles d'araignée et les machins, parce que c'est ce qu'il faisait. Ben, son voisin, il entendait le hari à côté. Il lui dit, il l'appelait pas Harizal. Il dit, hari, yesh lecha café? Ben oui. Et alors, c'est un petit bonhomme, un petit jeune de 36 ans. Il se balade dans les rues de Tzfat. Personne ne sait que ça va être le Harizal. C'est le hari. Hari. Majlomcha, ahlan, tac. Vous ne comprenez pas en réalité. Vous avez l'impression qu'il s'agit de gens starbes qui sont assis dans des trucs. C'est des gens vivants qui allaient à la synagogue, donc ils descendaient les escaliers de la rue. Il y a des gens qui voyaient, qui disaient Boker Tov, Shabbat Shalom. C'est des gens. Ne voyez pas. C'est sûr que c'est devenu une lumière. Mais il est né d'une maman et d'un papa comme tout le monde. C'est vrai? Tov. L'obirdi, ce n'est pas par hasard, Bachar Haman Arasha Bechodesh Adar Davka Kedele Mamesh et Zmamo Beashmatat Kola Yehudim. Maintenant vous comprenez pourquoi Haman Arasha, il marchait bon Vezirok, tout. Voilà par exemple, tu vois, je t'ai fait rire, j'ai gagné un point. Je n'étais pas obligé de faire tout ça, mais bon, je voulais te faire rire pour que tu sois un petit peu plus heureux ce mois-ci. Eh bien, ce Haman là, le pourri, pas pourri, mais pourri. Ken? C'était un pot pourri, lui. Ken? Eh bien, quand est-ce qu'il a voulu détruire les Juifs? Le mois de Hadar. Maintenant, vous comprenez pourquoi? C'est le summum de l'obscurité. Et en plus de ça, il savait que quoi? Que mon cher Rabbeinu, dont aujourd'hui c'est l'anniversaire, au moment où je vous parle, Sruto Tagen Alenu Amen. Mais bien sûr. Et de sa mort et de sa vie. Eh bien, il est né le même jour, il est mort le même jour qu'il est né. Ben oui. Hein? Donc en réalité, on se sert aujourd'hui de Moshe Rabbeinu, Yesod de Abba, Radla. C'est pas grave, hein, je parle en arabe de temps en temps. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ken, il n'y a que le Rav Naon qui touche. Donc en réalité, aujourd'hui, on doit utiliser la force de Radla. Et donc, il y a Aman qui a décidé de détruire tout parce qu'il s'est dit, si Moshe Rabbeinu qui représente cette sphira de Da'at, et il est mort ce mois-ci, il n'y a plus de Da'at. S'il n'y a pas de Da'at, il n'y a pas de Tribour. Il n'y a pas de Zivoug. Il n'y a pas de Yesod et de Malchut. Il n'y a pas de Za et de Nukba de Za. Je vous parle, c'est juste pour Purim. Hein. Donc il s'est dit, c'est le moment de les détruire tous. Il n'y a plus de lien entre le ciel et la terre. Donc qu'est-ce qu'il voulait faire Haman en réalité? C'est pas tuer des juifs. Il n'en a rien à faire de tuer des juifs. Ça c'est facile, on les tue de partout. Jusqu'à aujourd'hui on a la haine. Hier, le représentant devant une salle comble de milliers de personnes en Espagne. En parlant d'Israël, Ken dit Israël c'est un pays de qui tue des Palestiniens, qui tue des machins, boycotter Israël, il n'y a pas de machin, peu importe, c'est la même chose, vous croyez qu'il vous aime? On sait. Donc qu'est-ce qu'il voulait faire? Et ça, c'est toujours le mois de Hadar, attention, hein, ça ne se passe pas n'importe quand. Ça veut dire qu'il y a toujours des nouveaux Haman, tout, dans l'histoire. Il faut juste les déceler. Si c'est quelqu'un qui activement vient pour détruire le peuple d'Israël, il faut le tuer.
C'est-à-dire que là,
la royauté d'Israël. Là, il n'a pas fait.
Si je finis en prison dans ce monde, okay. Moi, je m'en fiche.
Tu t'en fiches, toi? Tu vas manger des poissons, donc. Bon. Non, tu as dit je m'en fiche. Je sais pas, moi, je rigole.
Si je mange des poissons, ça va.
D'accord, ok. Donc, on mange cachère, hein, de toute façon. Si quelqu'un vient pour exterminer la terre d'Israël,
il dit
et il prépare des choses comme l'Iran, nous avons le devoir, à chaque fois que nous sommes face à quelque chose que je peux détruire, de le détruire immédiatement. C'est sûr, et c'est ce qu'on fait, d'ailleurs.
Si y a quelqu'un qui a porté atteinte à la vie d'un juif, par exemple, le terroriste,
c'est normal, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si, selon la Torah, normalement, il est condamnable à mort. Ben, vadaï. Aouda, vous êtes sorti encore du cours avec des si, par exemple. Ok. Faire Dibli Neder. Parce que, à mon avis, tu ne vas pas tenir. Vas-y.
Si on est en galoute.
Oui.
Et que, donc, on a la culpa.
Mais pourquoi tu te fais mal comme ça? Mais pourquoi vous vous faites mal tout le temps? Tiens, en Israël, tu respires le bonheur et tu es tout le temps. Si je suis dans le noir, si je suis en galoute, si on me fait. Mais respire la vie, mon mec, mais respire la vie.
Parce que pour
me
là-bas, il
n'y
a plus de
sens
que
du. Ah, donc tu es en train de souffrir déjà, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une bonne neshama. Tu es en train de souffrir de savoir que tu vas être en galoute. Alors vas-y, continue. Ok. Ken, non. Ça, c'est des stams, des conneries. Ça. Ça, c'est des bêtises, ça. De toute façon, ta guerre n'est pas là-bas. Ta guerre n'est pas là-bas, elle est ici. Arrêtez de vous battre contre des courants d'air. Arrêtez. Arrêtez, c'est des moulins à vent. Ça ne sert à rien, c'est ici. Quand tu auras. L'année prochaine, si Dieu veut, pendant 3 ans, ton âme, et que 6 mois après, tu vas avoir ta femme qui va te dire ce que tu m'as dit tout à l'heure, on parlera. Là, tu peux te battre. Là-bas, c'est du baratin, arrête, t'as rien à faire là-bas.
On peut le frapper.
Aïe, malazéza.
Ça sert à quoi?
Ça ne sert à rien.
Ça sert à rien.
Ça ne sert à rien, c'est pas ça ton rôle. Ton rôle, il est ici. Arrêtez, on est déjà une nation sur notre terre. Venez vous battre ici. Arrêtez. Ken, ça y est, c'est fini le cours. Vas-y.
Ça a été tiré au sort.
Ça a été tiré au sort, oui. C'est tombé pourri, mais il s'est dit, quel kiff. C'est tombé juste pour. Qu'est-ce que ça veut dire pour? Le sort. En hébreu, ça s'appelle pour. Donc, il est tombé le pour. Donc il s'est dit, c'est magnifique, c'est tombé juste le mois où Moshe Rabbeinu il est mort, donc on va gagner. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout inversé. C'est pour ça que tu chantes, Vena Hafor, Vena Hafor. Qu'est-ce que ça veut dire Vena Hafor Hu? Tout a été changé. Asherish letu Ayudim, Hema Besonem. Et c'est les Yudim qui ont dominé leurs ennemis, et dans le passé, et dans le futur, et dans le futur, et dans le présent. Bezrat Hashem. Toda Rabba.